Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez Sophie Durocher.
Je suis amie Facebook avec André Ducharme, ex de RBO, et il a publié au cours des derniers jours un message vraiment très touchant où il raconte, il y a 40 ans exactement, à quel point il était un petit cul perdu, et comment a commencé la fabuleuse aventure de RBO. Alors je me suis dit, plutôt que de le lire sur Facebook, je vais lui parler en personne puis partager ça avec tous les auditeurs de Cube. André Ducharme est au bout de la ligne. Bonjour André.
Bonjour, comment vas-tu, virtuel ami?
Ben moi, je vais très bien, virtuel ami. Écoute, ton message sur RBO, sur Rock et Belles Oreilles, m'a beaucoup touchée. Surtout que tu finissais ce témoignage-là en disant « Bravo, bon 40 ans à RBO, ma deuxième famille ». C'est vraiment oui. Ce sentiment-là qui t'habitait quand tu repensais à ces 40 dernières années?
Ben, en fait, oui. Et RBO, c'est une drôle d'histoire parce que les membres d'RBO, au tout début, on se connaissait pas vraiment. C'est presque un mariage de raison, si on veut.
Ouais.
C'est une émission de radio où on se réunissait, mais il y avait plein de monde qui gravitait autour de ça. Puis à un moment donné, il y a comme un noyau dur qui s'est formé. Puis avec le temps, ben ce noyau dur-là, c'est vraiment devenu une famille. Des liens qu'on a entre nous, c'est des liens d'affection très forts, puis des liens qu'on peut qualifier de filiaux, c'est ça le mot. C'est vraiment ça, parce qu'on a vécu tellement de choses ensemble, pas seulement professionnellement, personnellement aussi. Il est arrivé plein d'affaires qui font en sorte que, ben, avec le temps, c'est vraiment devenu une famille. Ma deuxième, parce que j'en ai une autre. Il y a un lien entre les deux, c'est ça mon message.
Oui, mais tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que la façon dont tu le racontes, c'est que toi, tu faisais donc un spectacle avec ta gang musicale, les Yellow Frogs. Puis là, tu le racontes. Donc, je me permets de te citer sur Facebook. Tu dis, après le spectacle, il y a un monsieur moustachu que je connaissais pas qui est venu me voir. Je m'appelle Richard Z. Sirois et avec mon ami Guy Lepage, on commence vendredi prochain une nouvelle émission de radio qui va s'appeler Rock et Belles Oreilles. On aimerait ça faire jouer vos sketchs et les chansons des Yellow Frogs. Mais la façon dont tu le racontes, c'est vraiment très très formel, alors qu'aujourd'hui vous êtes indissociables les uns des autres. Donc c'est vraiment amusant de savoir la façon très formelle et très proprette dont tout ça a commencé.
Mais moi je connaissais même pas Richard Sirois. La première fois qu'il venait me parler, lui, il était là il est plus vieux que moi. Moi j'étais vraiment le bébé, hein. J'avais 19 ans quand ça a commencé. J'étais vraiment quand j'étais un petit cul, j'étais un petit cul. Et à 19 ans à l'université, surtout dans ces années-là, l'UQAM, je pense que la moyenne d'âge, ça devait être à peu près 68 ans. J'exagère, mais il y avait beaucoup de monde pas mal plus âgé. Je me sentais vraiment pas à ma place. Et Richard, lui, avait peut-être 24 ans. Et pour moi, quelqu'un de 24 ans, c'était un monsieur, là, tu sais.
C'était un vieux.
Avec sa moustache, c'était un vieux, tu sais. Fait qu'il y avait un vieux monsieur qui est venu me demander de faire de la radio avec lui. Et dans mon esprit, c'était... My God, c'est donc bien sérieux cette histoire-là. Et je connaissais Guy parce que Guy n'a pas changé. Quand Guy entre quelque part, il aspire l'air au complet de la place, ce qui fait en sorte que tout le monde connaissait Guy Lepage, mais j'avais aucun contact avec lui, même que je le trouvais un peu fendant et un peu prétentieux.
Je sais pas pourquoi tu dis ça. Non,
il a beaucoup changé. Sérieusement,
oui,
le Guy Lepage d'aujourd'hui est pas mal plus humain que celui que j'ai connu.
Oui.
Je joue un peu avec les mots, mais c'est vraiment quelqu'un que j'adore. Mais à l'époque, j'étais pas certain. Tout ça pour dire que c'est comme ça que ça a commencé. Avec le Feu sauvage de l'amour, la clé de toute cette histoire-là, c'est la chanson Feu sauvage de l'amour que j'avais composée avec Jacques Chevalier. Jacques Chevalier qui est dans les Bleues Poudres, qu'on connaît aussi, Jacques Chevalier
Longueuil.
Et on avait composé cette chanson-là, on avait 17 ans, 16 ans, 17 ans, ouais, 16 ans en fait. Et on était un groupe musical comique, on faisait des chansons un peu rigolotes, puis on avait comme, je dirais, une carrière un peu semi-professionnelle. On faisait des shows un peu partout, mais on n'était pas des vedettes. Et c'est cette chanson-là qui a comme cliqué chez Richard et chez Guy, qui ont dit « Hey, on veut travailler avec ce gars-là, c'est le fun ce qu'il fait. » Ben, en fait, l'offre était pour Jacques aussi, Jacques était dans les débuts de Rock et Belles Oreilles également. Et puis c'est comme ça que ça a parti. À partir finalement d'un show dont moi, c'est même pas moi qui avais eu l'idée, je l'explique dans mon texte.
C'est très drôle, mais oui.
C'est une fille avec qui je travaillais à l'université et qui avait pensé à ça. Elle disait, hey, on pourrait faire une émission d'humour autour de vos chansons, ça serait drôle. Et ben cette fille-là, et c'est le punch de mon texte, c'est devenu ma blonde, puis c'est devenu, et on voilà. est encore ensemble aujourd'hui. Voilà, c'est ça l'histoire. Moi, je dis toujours, c'est le 8 mai que c'est arrivé, ce spectacle-là. Et si je m'étais pas levé, si j'étais resté chez nous ce matin-là, j'aurais raté probablement l'ensemble de ma vie, pas juste ma carrière, ma vie au complet. c'est vraiment ça. Il y a vraiment un lien extraordinaire entre les deux histoires.
Ça si tu t'étais pas levé, oui, c'est ben tout à fait, mais si tu t'étais pas levé ce matin-là, tu serais peut-être, vendeur chez Yellow au lieu d'avoir fait les Yellow Frogs, et tu serais peut-être marié avec quelqu'un de plate et de pas le fun, puis tu serais peut-être malheureux Pierre.
Alors que c'est ma blonde qui est mariée avec quelqu'un de plate et pas le fun.
Écoute, on va écouter un petit extrait du Feu sauvage de l'amour. Jean-François Roy, qui travaille avec moi, vient de la trouver. Merci. On écoute ça. La maladie du baiser, le feu sauvage de l'amour. Alors, c'est ça aussi la grande force de RBO, c'est les sketchs et les chansons, mais des trucs avec des vers d'oreille. Écoute, 40 ans plus tard, on la chante encore, le feu sauvage de l'amour. Donc, ça doit te faire quand même un petit velours à chaque fois que les gens entonnent ça.
Ben moi, c'est vraiment spécial parce que à chaque fois que cette chanson-là joue, puis elle joue encore pas mal, moi, je me transporte pour 40 ans en arrière, 45 ans en arrière. Parce que on parle de 1977 à peu près quand ça a été écrit. On était vraiment des petits coups, on était au secondaire, là. Puis je me rappelle, on jouait cette chanson-là dans le sous-sol de Jacques Chevalier quand on répétait nos spectacles. On se regardait, on disait hey, cette chanson-là, c'est un hit. Mais on a 16 ans. Il arrivera jamais rien avec cette chanson-là. On va la chanter à Polyvalente. On va la chanter au Cégep. Puis il arrivera plus rien après. Puis finalement, ben, il est arrivé quelque chose. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est magique un peu.
Mais ce qui est magique, André, c'est qu'il y a sûrement plein de gens qui nous écoutent, qui ont peut-être 16 ans. Puis de t'entendre parler de ça, ça va leur donner peut-être le coup de pied au derrière pour se dire, ben, t'es dans ton sous-sol, tu joues peut-être, ou t'es devant ton ordinateur en 2021, c'est plus comme ça que ça se passe, mais de dire que quelque chose que tu crées dans ton sous-sol, ben, à un moment donné, va devenir quasiment un hymne national, c'est quand même assez impressionnant.
Écoute. Ben, je pense que ce qui est important, c'est quand t'as une passion, quand t'as quelque chose qui te fait triper. Tu sais, quand t'es jeune, moi, souvent, je donne des conférences dans des écoles, puis c'est l'affaire que je dis, quand vous trouvez quelque chose qui vous fait triper, là, ben, garochez-vous là-dedans. La voix est là. La voix, c'est pas dire, parce que souvent, les jeunes nous demandent, hey, c'est-tu payant ce que vous faites? Fais pas une job parce que c'est payant, parce qu'il y a bien des chances que tu vas être bien malheureux dans cette job-là, c'est pour ça que t'as fait. Fais quelque chose qui te fait triper, puis ça se peut que ça devienne effectivement ton gagne-pain, tu sais.
C'est un très très bon conseil, puis t'as tout à fait raison. Je vais faire écouter ce bout-ci de l'entrevue à mon fils de 13 ans. Non, mais c'est un très bon conseil, parce que c'est vrai que les jeunes ont souvent tendance à calculer, si tu veux, le succès en termes monétaires, mais tu sais, quand on regarde les influenceurs puis tout ça, on s'en fout, c'est pas ça qui devrait être ta motivation à te lever le matin comme tu l'as fait le 8 mai il y a 40 ans.
Oui,
écoute, écoute, on a tous des sketchs ou des moments préférés de Rock et Belles Oreilles. Écoute, avec l'actualité qu'il y a en ce moment, avec ce qui se passe en Israël, je pouvais pas m'empêcher, évidemment, de faire jouer un extrait de votre sketch anti-Palestine.
Crédit dans la région et que vous sentez que ça résiste trop. Employés anti-Palestine pour délier les muscles et anéantir les points de tension.
Antipalestine est efficace pour le côlon. Il contient du Fanatix, de l'Orthodox et de l'Acidine. Trois agents super puissants.
Est-ce que vous pourriez faire ça 40 ans plus tard?
Ben, nous autres, on le ferait, ça, c'est sûr qu'on le ferait. ce qui a peut-être changé 40 ans plus tard, c'est la frilosité peut-être des diffuseurs qui étaient moins présentes à ce moment-là. Puis, évidemment, les réseaux sociaux qui font en sorte que chaque petite chose devient une gigantesque montagne. C'est sûr qu'un sketch comme ça provoquerait des réactions sur les réseaux sociaux qui seraient très, très, très fortes et on aurait à gérer ça. Je ne sais pas comment on le ferait. C'est vraiment hypothétique, là. C'est dur de le savoir. Puis, on se pose beaucoup ces questions-là ces temps-ci quand on se parle entre nous. Comment on dealerait dans cette nouvelle réalité-là où c'est peut-être plus difficile, effectivement, d'émettre des opinions, où l'humour et l'ironie, je sais que Richard a écrit beaucoup là-dessus, sur le fait que l'ironie, c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Les gens comprennent plus les jokes.
Richard, mon mari,
Oui, absolument. Tu le connais.
Non, pour pas que les gens pensent que tu parles de Richard Sirois, non, c'est pour ça. Oui.
Non, excuse-moi. C'est ça, c'est que moi, j'en fais de moins en moins des blagues sur Twitter, par exemple, parce que quand j'en faisais, je me ramassais pris dans des controverses et des débats et des attaques personnelles, parce que les gens comprenaient pas que, hey, je fais une blague, c'est pas une opinion, tu sais. Et ça vient peut-être aussi du fait que les humoristes contemporains sont beaucoup dans l'opinion, c'est-à-dire que le personnage en tant que tel n'existe plus, ce qui fait en sorte que ce qu'un humoriste raconte sur scène, c'est souvent des idées personnelles, alors que nous, ça nous arrivait très souvent dans nos sketchs, je veux dire, le contraire de ce qu'on pensait.
Mais tout à fait, mais regarde par exemple quelqu'un comme Guy Nantel, il dit tout le temps, c'est pas moi, c'est le personnage de Guy Nantel sur scène. Donc, il fait un peu ce que, par exemple, faisait Yvon Deschamps. Tu sais, quand Yvon Deschamps riait des femmes, quand il riait des noirs, quand il riait de ci, quand il riait de ça. Ben, à l'époque, les gens étaient capables de comprendre que c'était pas ce que pensait Yvon Deschamps. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens sont capables de cette nuance-là et de cette subtilité-là? Peut-être pas. Puis votre sketch anti-Palestine, est-ce que vous auriez le lobby, israélien sur votre dos? Est-ce que ce serait problématique? Mais chaque millimètre, chaque mot que vous dites serait pesé. Mais je veux revenir avec toi sur quelque chose, André. Oui. C'est que bon, il y a le document RBO, The Archive, là. Je sais pas trop comment le penser.
C'est
The
Archive. Nous autres, ça a toujours été de quelque chose.
Ouais.
Alors c'est de Archive.
De Archives. À noter qu'un avertissement au début des émissions mentionne que le contenu comporte des scènes, des sujets et des parodies tirées d'archives d'émissions diffusées entre 1986 et 1988 qui pourraient offenser certains téléspectateurs, c'est ce qui est écrit dans le communiqué.
Oui.
C'est pas un peu pissou? Est-ce que ça te dérange qu'il y ait cet avertissement-là avant les épisodes?
Ben écoute, c'est un choix de diffuseur, puis nous, notre réaction à ça, c'est que quand tu regardes les épisodes, il y en a 20, après cet avertissement du diffuseur, il y en a un de Rock et Belles Oreilles qui se fout de la gueule du précédent.
Ah, okay.
C'est ça, notre réponse. Alors voilà.
Bon, ben c'est très bien répondu.
On a écrit 20 avertissements totalement ridicules.
Ah, c'est bon! Puis,
c'est ça. Voilà.
Voilà, je pense que la réponse est... La réponse est très, très bonne. André, je peux pas m'empêcher non plus, vu que c'est aussi dans l'actualité récente, de te faire jouer un petit extrait de RBO au sujet de Michel Louvain.
Monsieur Louvain, vous savez pas ce que j'ai entendu dire à votre sujet?
Non, quoi?
Ben, la rumeur qui court, là.
Je sais pas laquelle.
Mais oui, vous savez, la rumeur comme quoi vous seriez rien qu'une grosse...
Madame Brossard...
Est-ce que vous avez outé Michel Louvain avant le temps?
Ben, je pense que Michel Louvain, je pense qu'il n'y avait pas grand secret autour de Michel Louvain. C'est juste que nous autres, on a poussé ça un peu loin. Et c'était, tu sais, quand on donne un exemple de est-ce que RBO referait ce gag-là aujourd'hui? Ben non. Mais la réalité a changé. Le contexte a changé aussi. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne parlerait pas de ce sujet-là, on en parlerait certainement autrement. Tu sais, regarde, je donne un exemple bien niaiseux parce qu'on on parle beaucoup de ce genre de choses-là présentement, puis ça ramène le cas de ce qui est arrivé à Joël Legendre il y a plusieurs années dans un parc. Ben, c'est certain que on pourrait faire des gags là-dessus, t'sais. C'est sûr.
Ouais.
Mais là, on tombe pas d'en sortir quelqu'un du placard de force. Mais je pense que ce procédé-là a été mis de côté après la grande controverse de Pinard à Pimentfort.
Ouais, tout à fait.
Et ça a mis fin à ce genre de choses-là, mais bon, à l'époque, ça se faisait. Les cyniques l'ont fait, je sais pas combien de fois.
Ah, totalement. Ben oui, alors, tout à fait. T'as tout à fait raison. Mais c'est bien, c'est intéressant de faire le parallèle, en effet, avec les cyniques. Mais je suis contente que t'en parles, parce que si on met les cyniques plus RBO, je peine à trouver quelqu'un aujourd'hui parmi les humoristes individuels, donc pas dans un groupe d'humoristes, qui soit aussi bête et méchant que vous l'avez été ou que les cyniques l'ont été.
Ben, moi, je suis moins familier avec ce qui se fait présentement. C'est un milieu. Je suis encore quelqu'un de comique, mais je me considère pas comme un humoriste pratiquant, disons. j'ai moins vu ce qui s'est fait récemment, mais Yves Pelletier me parlait de ça il y a pas longtemps. On s'est vu, puis Yves a fait pas mal de spectacles dans les dernières années, puis il connaît un peu plus ce milieu-là. Puis il dit non, sur scène présentement, il y a beaucoup de gens qui pratiquent ce genre d'humour-là. La différence, c'est qu'il n'est pas pratiqué nécessairement à la télé, par exemple.
Voilà. Donc, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, qui est, je l'ai noté, la frilosité des diffuseurs, c'est quand même ça qui a changé. Et évidemment, les réseaux sociaux. Pour finir, André, ton plus beau et ton pire moment avec RBO. On commence avec le plus beau moment.
Ah, bah, écoute, j'en ai quelques-uns, mais je pense que le spectacle à la place des festivals à Montréal en 2014, si ma mémoire est bonne, devant une foule qui est estimée à 100 000 personnes.
Wow.
Ouais, c'est ça. Puis celle-là, j'avoue que ça m'avait vraiment rentré dedans. C'était un spectacle. Moi, je pense que c'est le meilleur spectacle qu'on a jamais fait. Puis en plus, c'est niaiseux, mais c'est important pour moi. Mes enfants étaient là. Mes enfants m'avaient jamais vu sur scène. Mes enfants étaient rendus en 2014. Ils étaient quand même rendus assez vieux là. Il était dans vingtaine, mais il n'avait jamais été conscient de ce que Rock et Belles Oreilles avait représenté. Il était trop jeune à l'époque. Ma conjointe m'a dit que tout le long du spectacle, les yeux étaient très, très, très grands ouverts du côté de mes enfants. Ils n'en revenaient pas. T'sais. Fait que ça, c'était
très
cool.
Très beau. Très beau. Et le pire moment, ça aurait été quoi, André?
Ben, il y a un truc qui nous est arrivé en 90-91, on a eu un accident d'auto. Moi, j'étais dans l'auto, puis on a failli y passer. C'était pas le moment le plus fun de notre vie. Sauf que il y avait trois des membres d'RBO qui étaient dans l'auto. J'ai inclus Jacques Primo là-dedans, notre gérant. Il y en a trois autres qui étaient restés dans la ville où on faisait le spectacle. Et quand on s'est retrouvés, je dirais que c'est à partir de ce moment-là, quand on parlait au début d'entrevue qu'on est devenu une famille, c'est à partir de ce moment-là qu'on est devenu une famille parce qu'on a réalisé qu'on avait failli se perdre.
Oh, qu'est-ce que c'est beau, beau témoignage. Écoute, j'ai des frissons.
J'ai un grand sensible, hein?
Ben là. J'en ai jamais douté, André. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Puis écoute, bravo, vraiment, félicitations au petit cul le 8 mai 81 qui est arrivé avec cette chanson-là, Le feu sauvage de l'amour. Puis message à tous les petits culs de 16 ans. Accrochez-vous à vos rêves. Merci beaucoup, André Ducharme.
Hey, merci à toi. Hein. Bye bye.